et fin. Enfin,
pour aujourd'hui.
Et donc, nous allons commencer par parler novella. Et pour les néophytes, on va rappeler que novella, ce sont des textes plutôt courts, entre la nouvelle et le roman. Des textes qui font entre 70 et un petit peu plus de 100 pages. Enfin, 70, évidemment, c'est une jauge.
Oui, une grosse nouvelle ou...
Un très court roman. Une novella, quoi.
Ça, voilà.
Et donc, c'est pas facile à publier ces courts textes, malgré souvent leur grande qualité. Alors, on les retrouve parfois dans des recueils de nouvelles. Et c'est une réussite que les éditions Inuit aient réussi à faire une collection qui leur est dédiée. Cette collection, sous un très joli format, très bien mise en page, s'appelle Polaroid et elle est dirigée par Marc Villard. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux textes qui sont sortis à l'automne dernier. L'un en octobre, l'autre en novembre. Ça n'a pas grande importance.
De toute façon, on les trouve sur les...
Voilà, ils sont disponibles.
Ils sont disponibles. Si jamais on... ils ne sont pas chez votre libraire, il se fera un grand plaisir
de vous les commander. Et ces deux textes montrent la diversité du genre, c'est-à-dire entre autres l'énorme potentiel du polar. Les styles avec une qualité d'écriture à chaque fois, les approches différentes, les thèmes abordés. Bref, voilà, ces deux textes qui font un peu le grand écart et c'est très bien comme ça. Pour le premier... Et je dois dire d'ailleurs que c'est mon préféré, mais c'est mon préféré tout simplement parce que c'est le genre d'histoire que j'aime à lire. Le premier s'appelle donc Liste Noire, et nous sommes là dans la littérature sociale et populaire. L'auteur s'appelle Yvon Coquille, et nous vous avions déjà parlé de son bouleversant recueil de nouvelles au titre si poétique, Métal Amer. Ce recueil était paru en 2016, et c'était chez les éditions Sixto. Cette novella évoque les mêmes personnes, les ouvriers dans les chantiers navals, dans Métal Amer, et ici, c'est au dock, dans les docks, pardon, du côté de Brest. Lucas, le personnage principal, il est soudeur, et il a, comme tous ses amis, comme sa famille avant lui, son père en particulier, qu'il va visiter souvent dans la maison de retraite, il a du mal à boucler ses fins de mois. Alors, quand une liste de postes à supprimer va être publié, le spectre du chômage étend son ombre, et c'est tout simplement une vie grise qui risque de virer au noir, au très noir. Sauf que, il y a peut-être une lumière, il y a peut-être une porte de sortie. Lucas entend dire qu'un autre ouvrier, Marco, veut partir à la retraite, et Lucas, il peut prendre le poste de Marco, donc il serait sauvé. On aime bien, effectivement, ne pas mettre directement au chômage, voilà. On écrème, comme disent certains décideurs. Mais Marco est introuvable. Et Lucas, en cherchant une issue possible, peut très vite se retrouver dans une impasse. Ici, on n'est pas dans une banlieue. Pas vraiment. On n'est pas dans des quartiers pourraves. Pourtant, la misère a généré des trafics. La drogue en particulier. Et à la violence de ces vies emmurées par le manque d'argent et d'horizon, s'ajoute celle des délinquants, les flingues que l'on se procure facilement, les coups tordus. Du coup, cette solidarité, les syndicats bienveillants, le soutien des potes, dont on avait entendu parler auparavant, il y a longtemps, semble avoir complètement disparu de cet univers. Et Lucas, comme les autres, va droit dans le mur. Certes, comme vous l'aurez compris, le propos est sombre, noir, vraiment très noir. Mais la plume d'Yvon Coquille est d'une bienveillance et d'une tendresse infinie pour ses personnages, ses ouvriers. Les écorchures, les blessures se glissent dans les mots, entre les phrases. Il nous parle d'un monde qu'il connaît bien, puisqu'il était lui-même ouvrier sur les chantiers navals. Et on sent l'envie de raconter ce monde, de donner la parole à ceux qui l'ont perdu depuis longtemps. Et l'on voit aussi le talent d'écriture de cet écrivain, les envolées lyriques, poétique dans ce monde si prosaïque. Donc, collection Polaroid, ça s'appelle Liste Noire, Yvon Coquille.
Le second.
Deuxième texte, je vois que tu suis. Deuxième texte très différent. Il s'appelle Le Sorcier. C'est un texte de Jérémy Bouquin. On sort du cadre urbain, du monde ouvrier, sort des usines pour se retrouver en pleine cambrousse, comme on appelle. La France profonde, comme certains médias l'annoncent, avec quand même une pointe de dédain dans le temps. Raoul, personnage principal ici, est un rebouteux, un marginal. Il vibre des cadeaux que lui font ses clients. Oui, parce qu'il a, il a un talent particulier. Ceux qui ne savent plus à qui s'adresser quand un mal mystérieux les ronge, eh bien, Raoul arrive à les guérir. Raoul fait des merveilles, avec souvent de la poudre de perlimpinpin. Alors Raoul, forcément, on le craint. Bien sûr, on va le voir, on lui fait des cadeaux. Mais on a l'impression qu'il a un pouvoir. Pouvoir maléfique, forcément. Et puis, c'est un taiseux. Il est bizarre avec ses tatouages, sa caravane et ses trophées qu'il planque dans un endroit mystérieux. Alors, il paraît très suspect, c'est facile, aux yeux des gens bien pensants, ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur petite propriété, de leur petite vie, de leurs petites idées. Oh, dans ce coin de campagne, rien de bien méchant. Jusqu'à ce qu'une gamine disparaisse, la petite Margot. Raoul, alors, est le coupable tout désigné, le bouc émissaire, comme on dit. On ne dévoilera pas plus les ressorts de cette courte histoire, à vous de les découvrir. Découvrir aussi le style de cet auteur, ses phrases minimales, sèches, qui rythment le récit, et l'atmosphère qu'il arrive à installer en quelques pages, surtout grâce à de petits détails qui pourraient être insignifiants. C'est vraiment vénéneux et très noir. Voilà, deux propositions pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. C'est un format idéal pour un petit cadeau. Le prix de 3 roses, en gros, un livre. Pour paraphraser Brel, les livres, c'est tellement mieux parce que les fleurs, c'est périssable. Voilà, on va écouter un petit peu de musique, Jacques. Que nous proposes-tu?
Ben, en fait, on a fêté cette année, enfin l'année dernière, en 2018, les 50 ans de la sortie du chef-d'œuvre de Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Et on va écouter, donc ça, on a eu le droit à une réédition augmentée. Et on va donc écouter une version démo de Jimi Hendrix, juste avec sa guitare. Une ébauche, mais déjà complètement magique, de 1983, je vous le dis pas en anglais. 1983, The Merman I Should Turn to Be, Jimi Hendrix.
Stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea straight ahead. Straight ahead. Too bad that our friends can't be with us today. The machine that we built would never save us, they would say. It's impossible. So my darling, make love on the sand. Dissolute the last moment ever on dry land. Our machine, it has done its work, played its part well, without a scratch on a body, and we bid it farewell. Starfish and giant phones greet us with a smile. Before our heads go under, we take a last look. The killer noise of the outer style.
C'était donc 1983, qui n'est pas la date de sortie ou d'écriture de ce morceau, mais bien le titre de morceau qu'on ne saurait prononcer en anglais.
Merman et Shooter and Toby, c'est le sous-titre.
Voilà, ça c'est mieux. Donc Jacques, tu vas nous parler maintenant d'un roman, si je veux.
Voilà, un roman. Donc après les novellas dont tu as parlé tout à l'heure, un gros roman de 600 pages, un roman d'espionnage écrit par un Gallois, mais en anglais. L'auteur s'appelle David B. John, le roman s'appelle L'Étoile du Nord. Il est paru dans la collection Equinox aux éditions des Arènes et il est traduit par Antoine Chénas.
Antoine Chénas qui, entre autres, est écrivain d'excellents romans dont on vous parle régulièrement ici.
Voilà. Donc, un roman d'espionnage, anglais, certes, c'est habituel, mais celui-ci a la particularité de se dérouler en très grande partie en Corée du Nord. D'où le titre, L'Étoile du Nord, la fameuse petite étoile rouge de la Corée du Nord. Et pas du tout le film de Pierre Granier de Fer, je crois, qui porte le même nom, L'Étoile du Nord.
Oui, avec la très belle Romy Schneider.
Voilà. D'ailleurs, pour mieux coller à l'ambiance du roman, L'Étoile Rouge, l'éditeur a rajouté à la traditionnelle couverture en noir et blanc, qui est un peu la marque de fabrique de la collection Equinox, une jaquette sur fond rouge, reprenant le dessin de couverture, lui aussi, pour le coup, en couleur. Bon, mais revenons au roman lui-même, et à ses trois personnages principaux. Donc d'abord, je situe, nous sommes fin 2010, à l'époque où les Coréens du Nord vont préparer d'envoyer leur premier missile. Leur premier missile balistique intercontinental. Donc le premier personnage, c'est le colonel Cho. C'est un fonctionnaire, un haut cadre du régime de Pyongyang. Il est anglophone, et donc il est chargé d'accompagner une délégation nord-coréenne à New York. Celle-ci est en charge de négocier les sanctions qui frappent leur pays. Et ils vont négocier avec l'interlocuteur impérialiste. Avec la pourriture impérialiste, devrais-je dire, si j'utilise leurs mots. Le deuxième personnage est une jeune métisse, d'origine coréenne par sa mère. Elle est professeure à l'université. Et sa thèse sur la Corée du Nord a beaucoup intéressé la CIA. Laquelle CIA va tenter et réussir à la recruter pour, entre autres, participer à ces négociations. À contre-cœur, elle va accepter pensant pouvoir utiliser les moyens de l'agence pour retrouver sa sœur qui est disparue sur une plage non loin de Séoul avec son boyfriend quelques années auparavant. Et enfin, la troisième protagoniste, une autre femme qui n'a rien à voir, Moon, c'est une mamie coréenne, coréenne du Nord, qui vivote tant bien que mal dans une région voisine de la grande amie, la Chine. Un jour, elle voit tomber du ciel un ballon contenant des tracts, une lampe torche et surtout des cookies. Et cela va bouleverser sa vie, pas forcément pour le mieux. Trois personnages qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, et pourtant, la magie du roman, la magie du romancier, va les réunir. Bon, ça, c'est juste un peu pour vous appâter, pour présenter un peu les personnages. Et ensuite, on part dans un polar de 600 pages, je le disais tout à l'heure, très très rythmé, sans temps mort, avec une intrigue, pour un roman d'espionnage, plus proche d'un James Bond que d'un polar façon John le Carré. Je soupçonne même l'auteur d'avoir pensé à l'adaptation cinématographique pendant l'écriture. Cependant, on ne lâche pas le livre, malgré son épaisseur. La tension est permanente, même si la vraisemblance de certains rebondissements laisse parfois à désirer, mais on s'en rend compte que si on y réfléchit après, parce qu'en fait on est embarqué dans l'histoire. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel du roman, qui est certes un divertissement très bien foutu, qui nous fait tourner les pages, je viens de le dire. Mais le roman, en fait, il nous conduit de l'autre côté de la frontière d'un pays, donc la Corée du Nord, dont on connaît rien ou presque. Et grâce à une gigantesque documentation, il en parle beaucoup à la fin du roman, David John nous fait rentrer dans la vie de ce pays fermé de tout, fermé à tous. Enfin, lui, il y a été d'ailleurs en séjour touristique, c'est ça qui lui a donné envie de raconter ce roman. Autant vous dire que le lecteur, enfin je suppose, en tout cas ça a été mon cas, reste parfois, et même très souvent, estomaqué par tant d'horreurs, de malheurs et d'aberrations, et aussi par tant d'imbécilités. On reste sidéré par moments, et même si on se dit que l'auteur instruit seulement à charge, enfin un petit peu, il raconte que les mauvais côtés, même si la moitié de ce qu'il raconte de la vie quotidienne, même si c'est que la moitié de ce qu'il raconte est vrai, ça reste hallucinant de cruauté et de crapulerie détestable. Et imaginez ce que vont être les passages dans les prisons ou dans les camps de travail pour ceux, je cite, dont la fibre révolutionnaire doit être fortifiée par le labeur. Mais en fait, la force du roman et le talent de l'auteur, donc, ce n'est pas de faire un réquisitoire, c'est un véritable roman d'aventure, d'action, sous couvert d'espionnage. Cela nous donne quand même à réfléchir. En fait, c'est un roman salutaire, libre à nous ensuite d'approfondir et de corroborer les dires et les informations qu'on découvre à la lecture de ce roman.
Alors, pour terminer, avant de vous dire au revoir, information, je dois faire un gros mea culpa, parce que je pense qu'on va crouler sous les mails. Dans le film de Pierre Granier de Fer, L'Étoile du Nord, j'ai totalement confondu, c'est pas du tout Romy Schneider qui joue, mais c'est, en tant qu'héroïne féminine, il y a Simone Signoret et Fanny Contenson, et le personnage principal est joué par Philippe Maurice. Je rappelle que ça sort d'un livre de Georges Simenon. Voilà.
Ouais, donc, la Romy Schneider, elle devait être un peu jeunette.
Voilà, on va vous dire... Au revoir, chacun dans son coin avec un bon. À bientôt.